Armand Sylvestre, conte audacieux. Le galant attentionné. Bien qu'anglais de Londres, même John Bottom était bien élevé, même en voyage. Aussi ses compatriotes le regardaient-ils à l'étranger d'un mauvais œil. Il n'allongeait pas ses longs pieds sous le nez de ses voisines, sur les coussins des wagons. Il demandait la permission d'allumer sa cigarette, ne choisissait pas son plus vilain chapeau pour aller à l'opéra, ne plantait pas les coudes sur les nappes des tables d'hôtes. Vous voyez que c'était un original, presque un excentrique, et ses parents, qui étaient de notables touristes, avaient coutume de dire de lui « Voilà un garçon qui finira mal ». D'autres insinuaient qu'il n'était pas de race pure, et que son grand aïeul n'était pas sur les bateaux qui amenèrent les Normands en Grande-Bretagne. Eh bien, cette façon de se singulariser ne devait lui porter aucun tort, bien au contraire, comme vous allez en juger. Car elle était délicieuse, la voisine qu'il avait ce soir-là, à la Comédie-Française, où il ne fréquentait qu'au fauteuil de balcon, pour ce qu'il préférait la société des femmes à l'autre. Délicieuse de tout point, dans une irréprochable toilette, un peu bourgeoise cependant, mais suffisamment décolletée. C'est qu'elles sont exquises, nos bourgeoises de Paris, et pour le déduit, non moins tentantes que les plus grandes dames. Madame Rondelet, ainsi se nommait celle-ci, et son Rondelet avait gagné moult argent dans les affaires, avait dû, à la vie sédentaire, des développements tout à fait aimables et un teint d'une blancheur vraiment idéale. Elle exhibait de son corsage de satin noir, que festonnait un léger nuage de dentelle, deux hémisphères que j'eusse aimé moi-même à étudier la géographie que j'ai toujours eue en horreur. Montagne polaire dont un rayon d'aurore boréale rose teintait à peine les sommets. Ses cheveux, pas noirs comme je les adore, mais pas blonds non plus. Pas la nuit, mais le crépuscule traversé d'or par de lointains éclairs. Ses yeux, pas bien grands, mais malicieux et vifs, roulait un sable fin au fond des prunelles, comme les sources matinales où viendraient boire les passereaux. Bouche avenante où le sourire semblait une habitude, largement posée sur le double enroulement de deux pétales de rose. Ah, les jolies mains de petit évêque qu'elle avait encore, mignonnes, effilées du bout, avec des fossettes sur le dessus. Exquise à voir éplucher une noix ou à chiffonner un ruban. Une bonne odeur de femme honnête, bien soignée autour de cela. Non pas les parfums écœurants où se reconnaissent les courtisanes, fleurs des grands chemins. Une senteur mystérieuse et pénétrante, au contraire, à peine grisante et délicieusement discrète, comme celle des petites fleurs des bois. On eût dit qu'elle mangeait des violettes. Un tout fort agaçant, s'il vous plaît, et qui mit tout à coup notre sobre Bottom dans un état de véhément enthousiasme. Mais il connaissait assez notre monde pour se douter qu'il n'y avait pas là grand espoir à caresser. D'ailleurs, le mari, le sieur Rondelet, était là, de l'autre côté, écoutant avec recueillement la prose de Camille Doucet. Le timide enfant d'Albion n'essaya donc même pas d'adresser un seul mot à cette appétissante créature. Cependant, quand la prose de Camille Doucet eut fini de sévir, et que tout le monde se leva, avec une joie manifeste de s'en aller, dans sa précipitation à fuir cette mauvaise musique, l'inconnu oublia sur son siège sa fort mignonne lorgnette, en nacre incrustée d'argent. Respectueusement, John la rappela en lui montrant l'objet, sans oser y toucher. « Mesdames, lui dit-il, vous oubliez quelque chose. » Madame Rondelet tenait infiniment à ce petit télescope que lui avait donné sa marraine le jour de son mariage. Elle eut comme un sursaut douloureux à l'idée qu'elle avait failli le perdre. Mais à une pâleur subite succéda une rougeur de plaisir et de reconnaissance sur son aimable visage. Et c'est comme une fleur qui s'ouvre au soleil qu'elle sourit au jeune homme, en balbutiant des remerciements vagues, mais visiblement émus. Notre Rondelet, qui venait de boire à la source même des civilités puériles et honnêtes dont Camille Doucet est le représentant ici-bas, ne perdit pas l'occasion de faire une imprudence. Très brusquement, lui, il félicita John de sa probité et lui fit galamment comprendre qu'il n'en aurait pas attendu autant de lui, sachant que les Anglais qui sont en France sont presque tous des pickpockets. John fit une grimace à ce compliment d'un goût douteux, mais il se convainquit vite que son interlocuteur était simplement naïf, comme un homme qui vient de se désaltérer aux fontaines de la naïveté même, et qu'il n'avait nullement entendu être impertinent. Le dernier doute fut dissipé sur ce point par l'insistance que mit le maladroit Rondelet à l'engager à lui venir faire visite. « Ma femme, lui dit-il, reçoit tous les mercredis. » John, à son tour, rougit de plaisir en regardant Madame Rondelet, qui daigna ajouter « Monsieur, vous me ferez grand plaisir à moi-même en acceptant. » Pour le coup, John faillit s'évanouir de joie. Le couple le quitta en lui laissant son adresse. Madame s'en mitoufla dans une pelisse de soie, et monsieur faillit éborgner un camarade de vestiaire en enfilant la manche gauche de son pardessus. Comme hébété, notre Anglais descendit précipitamment pour voir monter en voiture celle qui venait de lui parler avec tant de gentillesse. Les ressorts gémirent doucement, et il y eut un encombrement léger à la portière, quand Madame Rondelet y voulut faire passer ses jupes. Je ne sais rien de plus aguichant au sens que ce spectacle des Parisiennes un peu grassouillettes s'insinuant en carrosse. John en sut quelque chose, et regagna sa chambre d'hôtel avec des visions de harem dans le cerveau. Il lui sembla que la semaine n'aurait jamais de mercredi. Le grand jour vint enfin, et il la revit dans un confortable luxueux qui lui seyait encore davantage, portant une admirable toilette de dame chez elle, où il semble que la rupture d'une seule agrafe ferait tout tomber. Perspective délicieuse où se complaît l'imagination des visiteurs. Elle fut d'une affabilité très grande, et je crois bien que le pauvre amoureux allait risquer sa déclaration quand de nouveaux venus furent annoncés à la porte, et commença un défilé de connaissances chargées de banalités, comme des canons, jusqu'à la gueule. Ce fut une artillerie de sottises à la longue portée, qui eut mis en déroute tout ennemi un peu délicat. John se résigna à battre en retraite, mais Madame Rondelet l'accompagna jusqu'au seuil, et tout bas, de la part de son mari, mais sans insister sur ce point, l'engagea à dîner pour le lendemain. Et rapidement prit-il ses habitudes dans la maison, Rondelet le traitant avec une familiarité pleine de confiance. Rondelet en vint rapidement à le laisser seul avec sa femme, le soir, durant des heures, quand il avait envie d'aller faire un tour aux coulisses des variétés, où il avait une bonne amie. Comme toutes les femmes, Madame Rondelet aimait infiniment qu'on lui fît la cour. Celle de l'Anglais était d'ailleurs d'un goût parfait, également timide et passionnée. Car l'amour vrai est généralement sans courage. C'était d'interminables causeries, sous la lampe baissée, les bouches voisinant déjà avec une fausse peur d'être entendues, les joues prêtes à se souder pour le premier baiser, les genoux se touchant, et aussi les bras dans toute leur longueur, avec des frissons montant jusqu'aux épaules. On a tort de railler ce premier enchantement des platoniques tendresses. C'était un hors-d'œuvre délicieux, mais un hors-d'œuvre seulement. Madame Rondelet paraissait disposée à se contenter de ses apéritifs et de ses gobichonneries exquises. Mais John sentait joliment croître son appétit. Ses familières délices, loin de l'endormir, le réveillaient affreusement. Un peu d'amertume et de désespoir commençait d'empoisonner son admiration, et il lui fallait sa belle tenue de gentilhomme pour ne pas faire éclater son impatience. Aussi, un jour, ou mieux un soir que Madame Rondelet lui disait d'une voix charmante, en lui enlaçant le cou dans la tiédeur parfumée de ses bras, « N'est-ce pas, mon ami, que nous sommes bien heureux ?» Très mélancoliquement et presque sur un ton de reproche, il lui répondit « Mesdames, vous oubliez quelque chose. » Cette omission devait être amplement réparée. Madame Rondelet n'oublia plus rien, si ce n'est toutefois ses devoirs envers son mari. Nous ne l'en blâmerons pas, je vous prie, C'est une occupation si agréable que pour la croire illicite, il faudrait douter de la bonté de Dieu. Que serait le mariage sans l'adultère? Un état d'égoïsme révoltant, l'exercice d'un monopole odieux, la négation de toute notion libérale en amour, le triomphe de l'ennui, la mort du roman et du théâtre. Di avertant omnem. Dieu nous garde d'une société dont la conjugale fidélité serait la base. On se mit à tromper ferme rondelet dans sa propre maison, et c'était justice. Le drôle ne rentrait plus qu'à minuit maintenant. Il découchait même quelquefois, en simulant des affaires d'honneur où il était témoin. C'était par une de ces nuits heureuses où John jouait au vrai mari qui se prélasse dans les draps aussi longtemps qu'il lui convient. Ah, l'honneur de ce stupide rondelet! Il venait d'en faire une jolie charpie. Ils avaient taillé 2, 3, 4, 5 pans en pleine étoffe, en plein cœur du tissu. John avait encore ses ciseaux à la main. Mais Madame Rondelet demandait grâce. Il fallait bien en garder un petit lambeau pour le lendemain. Très douce au dedans, tout à fait adorable au dehors, cette nuit mémorable qui grandit la taille de Rondelet de plus de 100 coudées, claire, avec un grand scintillement d'étoiles, et une pleine lune roulant sur un imperceptible char de petites nuées, une lune ronde comme un fromage, jaune comme l'œil d'un énorme chat. Ils voyaient cela de leur lit, ayant tout grand ouvert les rideaux de la croisée, pour jouir de ce magnifique spectacle du ciel, durant les entr'actes de leur amoureuse comédie. Ayant déclaré que la pièce était finie, Madame Rondelet s'était échappée des couvertures pour une de ces équitations intimes, hydrauliques et salutaires, où l'on n'a pas à craindre que la monture, aux tranquilles jambes de bois, vous jette à terre par quelques sauts désordonnés. Un murmure de source qui se réveille dans des gazons scandait sa cavalcade, et John, toujours bien élevé, soupirait à demi-voix cette romance enfantine. À cheval sur un bidet. Que disaient les vieux qui nous faisaient autrefois sauter sur leurs genoux. Quand le jet d'eau se tut, Madame Rondelet, ayant mis pied à terre, l'Anglais s'élança à son tour. Mais il s'arrêta, interdit. Au bord du petit lac encore frissonnant d'imperceptibles rides. Dans le miroir de cette onde émue, la lune du dehors dont l'image traversait les vitres pour prendre ce nouveau bain de Diane. Or, la dite lune était si pleine, si ronde, si blanche, si pareille à celle que l'heureux John caressait encore sous la toile il y a quelques instants, qu'une idée folle lui passa sous le front. « Mesdames, s'écria-t-il avec une anxiété indicible dans la voix. « Vous oubliez quelque chose.